Bienvenue dans Pouvoir Caché, le podcast sororal et en puissance 1. Je suis Noélie Salguera, coach business et leadership féminin et j'aide les entrepreneurs à affirmer leur leadership de manière badass et à faire exploser leur biz grâce à des stratégies adaptées. Dans ce podcast, j'explore les pouvoirs cachés des femmes en allant de la confiance en soi à l'entrepreneuriat, du marketing à la spiritualité, du féminisme à la maternité ou encore de la manifestation au rapport au corps et à la sensualité dans le but de t'aider à découvrir tes pouvoirs cachés et à les assumer pleinement. Alors sur ce, installe-toi confortablement et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de podcast puisqu'il s'agit à nouveau d'une interview. Donc je suis trop contente à chaque fois d'avoir le plaisir de pouvoir échanger avec les invités sur le podcast. Et cette fois-ci, j'ai eu le plaisir de recevoir Jessica de Prater, que peut-être que vous connaissez d'Instagram puisqu'elle est coach Instagram. Et en gros, elle apprend aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, etc. à trouver des clients sur Instagram avec éthique, authenticité et punch. Et vous allez voir que ce sont trois traits de caractère qui la définissent merveilleusement bien. Vous allez découvrir ça au travers de la discussion qu'on a eue. On a papoté de tout plein de choses, de son parcours entrepreneurial, de son passage en société, de ses leçons et de ses apprentissages, de ses réussites, de ses échecs. À la fin de l'épisode, elle va vous partager un petit peu ses tips pour pouvoir se démarquer du lot sur Instagram, pour pouvoir trouver des clients sur Instagram en 2024. On a parlé un petit peu aussi d'argent pour essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour déconstruire les croyances limitantes autour de l'argent, comment découvrir d'autres personnes aussi dans l'entrepreneuriat pour éviter de se sentir seule, parce que ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup quand on se lance dans l'entrepreneuriat, à savoir le fait de se sentir seule. Donc comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans des cercles d'entrepreneurs, comment est-ce qu'on fait pour s'entourer de personnes qui vont nous élever, nous motiver, nous tirer vers le haut, etc. et qui partagent notre ambition aussi. Donc tout ce dont on a discuté avec Jess aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode va vous plaire. Si jamais c'est le cas, pensez à le partager sur les réseaux sociaux en nous identifiant à Jessica et à moi. Vous allez retrouver de toute manière toutes ces informations dans la description de cet épisode comme d'habitude. Et pensez à laisser un petit avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Si jamais vous nous regardez sur YouTube, pensez à laisser un petit commentaire, à lâcher un petit pouce en l'air de préférence et à vous abonner pour ne rien louper. Voilà, c'est tout pour cette intro et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse écoute. Ben salut Jessica, merci beaucoup de nous faire l'honneur de venir sur le podcast Pouvoir Caché aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas ?
Ben salut Noélie, merci beaucoup pour cette invitation. Déjà, je suis très contente d'être sur ce podcast. Et écoute, ça va bien. En ce moment, c'est une période assez chargée pour moi. Je viens de passer d'auto-entreprise à société. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, beaucoup de projets. C'est le début d'année, donc forcément, on s'est fixé des objectifs. Et du coup, l'énergie, elle est assez young, j'ai envie de dire. Beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de projets. On vient aussi d'investir en immobilier. Donc, on a acheté notre deuxième bien. Enfin, on est en train d'acheter notre deuxième bien. Donc, c'est vrai que beaucoup de choses se passent en ce moment. Donc, en même temps, beaucoup de stress, mais en même temps aussi beaucoup d'excitation pour ce début d'année.
Ouais, waouh. On va parler de tout ça de toute manière, mais trop dingue. Et pour toutes les personnes qui te connaissent pas et qui te découvrent aujourd'hui dans cet épisode, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire un petit peu, ce que tu fais dans la vie et au-delà de ce que tu fais dans la vie, vraiment qu'on puisse cerner un petit peu qui tu es toi, Jessica, en tant qu'être humain et pas juste voilà ce que je fais, voilà quel est mon rôle, quelle est ma mission et tout quoi.
Beaucoup de choses à dire, je pense. Je vais peut-être sur le pro parce que ça reste quand même le plus simple pour moi, je suis plus habituée. Donc moi c'est Jess, j'ai 31 ans et du coup ma mission c'est d'aider les entrepreneuses à trouver des clients sur Instagram et à développer leurs entreprises. Donc j'ai commencé, moi j'étais pas forcément destinée à être entrepreneuse, j'ai eu un parcours entre guillemets assez classique au niveau scolaire, donc j'ai eu mon bac, ensuite je suis allée en DUT, ensuite j'ai eu ma licence en marketing et en vente, ensuite j'ai fait un master 2 en marketing et en communication. Tout s'est enchaîné sans que j'ai trop de plans au début, assez naturellement. Et ensuite, vient le moment où il faut se lancer dans la vie active. Donc, je savais plus ou moins que je voulais quand même être indépendante. C'est vrai que je me souviens de moi quand j'étais sur les bancs de l'amphi, quand les profs demandaient qu'est-ce que vous voulez faire. J'étais la seule à cette époque-là parce que voilà, les années passent et que ça commence à être un peu lointain maintenant. Mais à cette époque-là, l'entrepreneuriat n'était pas du tout démocratisé. Et encore moins tout ce qui était auto-entreprise, micro-entreprise, qui était mis en avant, c'était plus tout ce qui était start-up, etc. Et quand même, à ce moment-là, j'avais déjà mon idée d'être indépendante. Je savais que je voulais pas forcément créer une grosse structure, mais plutôt être à mon compte. Et donc, je me souviens de moi qui répond que j'aimerais bien travailler dans la communication, et notamment sur les réseaux sociaux, mais à mon compte. Et c'est pour ça, du coup, d'ailleurs, que j'ai créé mon auto-entreprise à ce moment-là. Mais en fait, ça s'est pas vraiment passé comme prévu, puisque... erreur de débutante, entre guillemets, mon premier client, ça a été une agence de communication. Et du coup, comme c'était un gros contrat, je me suis carrément reposée là-dessus. Je me suis dit, bah vas-y, c'est bon, j'ai un gros contrat, c'est parfait. Donc, j'ai pas forcément trouvé, cherché d'autres clients à côté. Et du coup, au bout de 3 mois, l'agence m'a dit, on est content de toi, mais maintenant, on a besoin de quelqu'un en interne. Donc, soit tu prends un CDI, soit bye, quoi. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je savais que je voulais quand même être indépendante, mais à ce moment-là, en fait... le CDI, c'était vraiment la voie royale pour la plupart des gens. Et c'était aussi finalement choisir le confort, la sécurité. Donc, j'ai accepté. Mais voilà, sans grande conviction, 1 an et demi plus tard, du coup, sans rentrer trop dans les détails, mais bon, en même temps, je pense que ça peut être aussi intéressant d'en parler. Ça s'est pas forcément bien fini avec mon employeur. Il y a eu beaucoup de problèmes d'harcèlement, harcèlement moral, harcèlement sexuel. C'est même allé... jusque devant les tribunaux, donc voilà, une mauvaise expérience salariale, même si ce que j'avais fait avant, parce que j'avais aussi travaillé dans un grand groupe, ça s'était bien passé, c'est vrai que ça m'a un peu, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup impacté, et du coup, ça m'a amené à un gros travail d'introspection, en mode, bon bah ok, maintenant c'est terminé, c'est derrière moi, qu'est-ce que je fais? Peut-être que du coup, bah, c'est un signe qu'il faut que je me relance dans mes premiers amours pour l'entrepreneuriat. Et du coup, bah, là, ça fait 3 ans et demi que j'ai repris mon activité de micro-entrepreneuse. Donc au départ, j'étais community manager, donc prestataire de service. Ensuite, je me suis orientée vers du coaching parce que j'avais de plus en plus de demandes en ce sens. Et maintenant, ça fait 2 ans que je vis uniquement de mes formations en ligne. Donc, j'ai encore basculé le business model du coaching vers la formation en ligne. Et voilà, c'est vraiment le business model qui me correspond le plus, qui correspond aussi le plus à ma vie de rêve et à la vie personnelle que j'ai toujours voulu avoir. C'est-à-dire vraiment un emploi du temps hyper flexible, zéro contrainte géographique. Donc voilà, c'est vraiment un super, super business model et ça me permet aussi d'aider beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup plus que ce que je pouvais faire quand j'étais prestataire de service ou coach. Et voilà, pour la partie pro, c'est là où j'en suis actuellement. Et pour la partie perso, qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est une question quand même...
C'est dur, hein?
C'est beaucoup plus dur de se présenter finalement sur la partie perso plutôt que sur la partie pro. Je pense que ce qui m'a toujours caractérisée depuis que je suis petite, c'est que j'ai vraiment soif de liberté. Je suis quelqu'un d'assez créative aussi. J'ai toujours été une petite fille assez téméraire qui fonce et qui a toujours besoin de s'exprimer à travers la création. Quand j'étais petite, je me réveillais la nuit pour peindre des peintures à 4h du matin. Ma mère me laissait faire d'ailleurs. J'ai toujours été assez soutenue, donc j'ai aussi été dans un environnement familial où on m'a quand même fait confiance et on m'a montré que voilà, je pouvais choisir la vie que je voulais choisir. Mais voilà, au fur et à mesure, je me suis quand même, je pense... un peu perdu, en même temps perdu, c'est aussi se chercher, je pense, à cet âge-là, quand t'arrives, voilà, quand t'es ado, après quand t'es une jeune adulte, tu cherches un peu finalement à rentrer dans le moule, et du coup c'est pour ça que je me suis, j'irais un peu perdu dans le salariat, mais finalement c'est ce qui m'a aussi montré que bah voilà, mon désir d'indépendance, voilà, fait que j'ai voulu revenir à l'entrepreneuriat et c'est ce qui m'épanouit à 100% aujourd'hui. Et voilà, et sur un plan amoureux, je suis en couple depuis 4 ans maintenant, voilà, après des premières relations qui ont été plus ou moins tumultueuses, mais là je suis vraiment dans une relation saine et voilà, qui m'épanouit et qui me tire vers le haut, et ça c'est vrai que ça change aussi, et que en fait je suis persuadée maintenant que le pro, le perso, tout est lié, et que finalement bah, quand t'es aligné dans ta vie amoureuse, ça te tire vers le haut, vers ta vie professionnelle, et inversement aussi. Et voilà.
Ouais,
ça fait beaucoup de choses.
Non, mais c'est trop bien, c'est trop bien, parce qu'en fait, ça permet de cerner un petit peu, ben voilà, qui est-ce que t'es, ton parcours et tout. Et je te rejoins vraiment sur le fait de l'importance d'être bien entouré, au-delà, tu vois, de la vie amoureuse, la vie amicale et tout. Surtout quand t'es, je trouve, dans l'entrepreneuriat encore plus, là où c'est très facile de se sentir seul, de s'isoler un petit peu, si justement, de soi-même, on va pas chercher les autres non plus. Parce que c'est vrai que ben tu travailles pas dans une boîte, donc t'as pas d'autres collègues, t'es tout seul si t'as pas d'autres personnes avec toi dans ta société. Et d'être comme ça, entouré de personnes, tu vois, toi, t'as Tony, lui, il t'a toi. Là, vous pouvez vous tirer vers le haut et tout. C'est juste trop, trop ouf. Et j'ai une question parce que tu dis que t'es revenu un peu à ton premier amour de l'auto-entrepreneuriat et tout. C'était au-delà de la volonté d'être libre, de pouvoir travailler de n'importe où et tout, que ça puisse que ton boulot en fait puisse s'adapter au style de vie qui toi t'épanouit. C'était quoi tes ambitions, c'est quoi en fait qui fait que pour toi le fait d'être entrepreneur, d'être à ton compte, c'est le truc qui te convient? C'était quoi tes ambitions premières en fait?
Ouais, au-delà de la liberté géographique, parce qu'au départ, je me suis même pas dit ça, tu vois, spécialement, c'est plus que dans ma personnalité, j'ai toujours été quelqu'un d'assez hermétique à l'autorité, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je l'ai vu directement avec mes profs, même si j'ai toujours été plus ou moins une bonne élève, mais voilà, j'avais du mal, en fait, à même en entreprise, et ça s'est vite confirmé, parce qu'en fait, même si j'ai fait un master, j'ai fait quand même pas mal de stages, après j'étais en alternance, donc j'ai très vite vu, finalement, que d'avoir un supérieur avec qui je suis pas forcément d'accord, et c'est même pas que sur le en termes de personnalité, etc. Des fois c'est sur des choix pro. En fait, je me suis très vite rendu compte que je voulais avoir une liberté créative aussi, parce que la liberté, c'est pas que, comme on l'a dit, géographique et emploi du temps, etc. C'est aussi vraiment pouvoir créer des projets moi-même et faire des choix sans que y ait mon boss qui me dise bon ben moi je ferais pas ça comme ça, je ferais ça comme ça, fais ci, fais pas ça. En fait, j'avais vraiment envie de pouvoir au quotidien m'impliquer dans des projets qui font sens pour moi et sur lesquels je suis 100% décisionnaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi. Et c'est pour ça aussi, je disais que j'ai vite su que c'était pas forcément l'univers des startups, parce que bon, y a plein de formes entrepreneuriales. Et moi, on parlait surtout de startups au début. Mais même moi, je me vois pas forcément manager ou diriger des équipes. C'était vraiment genre, c'est pour ça que je parlais beaucoup d'auto-entrepreneuriat et d'être à mon compte. C'était vraiment juste moi, en fait, je voulais être ma propre boss à moi, pas forcément avoir des employés et pas forcément être dans une grande structure, mais moi, en tout cas, pouvoir décider de mes projets à 100%, quoi.
Ouais, je te comprends grave. C'est trop, trop... Ça résonne beaucoup en moi, là, ta réponse.
Donc, ouais, c'est pareil.
Ouais, c'est hyper important, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui se lancent, tu vois, dans l'entrepreneuriat et qui se disent, ça a apporté plus de liberté. Ouais, mais de liberté de quoi? C'est quoi qui est important pour toi aussi? Parce que ça vient nourrir une forme de pourquoi, et c'est important après pour nourrir derrière ton projet. C'est ce qui va te faire aller au bout des objectifs que tu te fixes et tout ça. Et tu disais que ça faisait 3 ans, du coup, que tu t'es vraiment mis à fond à ton compte, et je lisais un peu dans ta présentation, la première année où t'as lancé ton business, t'as dépassé le seuil de TVA, la deuxième année t'as dépassé le seuil de la micro-entreprise, et la troisième année t'as créé ton entreprise. De où, de comment, de pourquoi, qu'est-ce que t'as fait, selon toi en fait c'est quoi les principales raisons qui ont fait que en seulement 3 ans entre guillemets t'as réussi à exploser comme ça, à faire péter toutes ces seuils, puisqu'il s'agit de seuils là, il s'est passé quoi?
Alors, il s'est passé quoi? En vrai, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé au début, c'est que j'étais sur un business model assez simple, entre guillemets, et qui permet d'avoir des revenus récurrents facilement. Parce qu'en fait, quand tu es community manager, quand tu te lances, ben en fait, tes clients, ils ont besoin de toi tout le temps, tous les mois. Si ça se passe bien, ils vont renouveler le truc tous les mois. Tu vois, ils sont pas... Par exemple, contrairement à une graphiste qui, par exemple, va faire des identités visuelles, en général, c'est des prestations one-shot. Donc, tu vois, tu as moins ce truc récurrent facilement. Donc, finalement, j'étais sur un business model où j'avais pas besoin de 150 clients pour 100% vivre de mon activité. Donc, je pense que ça, déjà, ce business model de community manager freelance m'a aidé. Ensuite, je pense qu'il y a quand même autre chose qui m'a aidé, c'est que je suis arrivée, j'avais mon expérience en agence de communication, je le voyais bien, ça a aidé aussi quand tu te présentes et que tu dis que tu as déjà travaillé en agence de communication, forcément, et en plus que tu as un diplôme dans le secteur, un master 2, on te fait quand même plus facilement confiance. Faut aussi, tu vois, genre rendre à César ce qu'il y a à César, voilà. C'est pas forcément justifié parce que, franchement, c'est ce que je dis tout le temps, mes études, c'est pas forcément ce qui m'a le plus apporté. Mon expérience en agence, ça m'a vraiment aidé aussi. Mais en fait, là où j'ai le plus appris, c'est sur le terrain. C'est vraiment quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est quand j'ai développé mon nombre de clients et tout. Donc, je sais maintenant avec du recul que c'est pas ce qui m'a le plus formée et été le plus riche pour moi d'apprentissage. Mais en tout cas, à ce moment-là, je pense que ça a rassuré les clients que je pouvais avoir. Et la troisième chose, c'est que je pense que j'ai aussi cette facilité à pas me poser 400 milliards de questions. Si je dis ça, c'est parce que j'ai beaucoup de mes élèves et de mes clientes, tu sais, qui, quand elles se lancent, se posent vraiment toutes les questions possibles et imaginables, même sans avoir de clientes. Elles se demandent, mais quand j'aurai un client, comment je vais faire ci et comment je vais faire ça? Et tu vois qu'ils vont avoir beaucoup de croyances limitantes. Alors, je dis pas que j'en ai eu. Moi, j'en ai eu beaucoup, je pense, sur le sujet de l'argent. Mais par contre, sur le fait de me lancer, de proposer mes services, même si voilà, mes offres, je les avais pas encore testées, bah, je les lançais, je voyais ce que ça donnait. Derrière, je réajustais le truc, tu vois. C'est vraiment dans mon caractère de pas forcément me poser 30 milliards de questions. Je pense que ça m'a beaucoup aidée. Et aussi, directement, j'ai eu ce truc de lancer mon compte Instagram, d'avoir une vitrine et surtout de prouver à mes clients que je pouvais leur apporter la même chose qu'à moi, c'est-à-dire de trouver des clients sur Instagram. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui ont fait que à ce moment-là, en auto-entreprise, en prestation de services sur du community management, ça a bien fonctionné. Et ensuite, en fait, je pense que ma force a été d'être vraiment à l'écoute de mon marché, à l'écoute de mon audience, parce que tu vois, au départ, je me suis pas dit au bout de quelques mois seulement, je vais lancer une offre de coaching. Si j'ai lancé une offre de coaching, j'aurais jamais pensé être coach Instagram, hein. Mais si je l'ai fait, c'est parce que j'ai eu de plus en plus de demandes en message privé où on me disait, ben moi, j'ai pas forcément, tu sais, le budget pour passer par un community manager et pour voilà, dépenser 500, 600, 700, 800 euros par mois là-dedans. Par contre, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de le faire moi-même. Et c'est là que je me suis dit, bah vas-y, feu, pareil, mon offre de coaching, de base, j'avais zéro base et je l'ai juste pensé comme ça, je l'ai vendu. Et ensuite, tu vois, à partir du moment où je l'ai vendu, j'ai créé les séances de coaching, mais pas avant, tu vois. Genre, j'ai jamais fait les choses vraiment en mode, ok, il faut que toutes mes séances, j'ai 4 séances, elles soient déjà carrées, que je sache exactement ce que je vais faire, comment je vais le faire et tout. C'est plus genre, je prends la température au niveau de mon audience, je vends le truc et après je crée mon offre et au fur et à mesure je réajuste. Donc voilà, je pense que être à l'écoute de mon marché, ça m'a aidé. Même quand j'ai fait la transition du coaching vers la formation en ligne, c'était pareil. C'était que, en fait, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de demandes de coaching et que je pouvais plus assurer, prendre autant de coachés que ce que je voulais. Donc je me suis dit, bah, quelle est la solution pour que je puisse accueillir toutes ces personnes qui me font des demandes? Bah, c'est la formation en ligne, parce que là, tu peux avoir 500, 600, 700, 800 élèves sans souci. C'était pas plafonné et en même temps, en plus, ça correspondait à mes aspirations personnelles. Mais voilà, je pense que c'est vraiment arrêter de me poser des questions, passer à l'action et être à l'écoute de mon audience.
Ouais, et ça, c'est trop intéressant ce que tu disais sur le fait que souvent, on se pose des questions, en fait, qui pour l'instant n'ont pas lieu d'être. Bon, après, ça se comprend parce que souvent c'est très ancré, comme tu disais, sur des croyances que tu vas avoir, des peurs, des insécurités. Et toi, tu parlais que tu avais beaucoup de croyances par rapport à l'argent. C'est quoi le process que tu as eu du coup pour déconstruire tout ça?
C'est hyper intéressant. c'est vrai que, en fait, pour parler un peu de mon... parce que je pense que chacun a un rapport différent à l'argent. Pour parler du mien, en fait, je viens d'une famille modeste. Alors, j'ai toujours eu de quoi manger dans mon assiette. Mais c'est vrai que j'ai eu ce modèle de ma mère, qui a toujours été une femme indépendante, qui nous a élevés seuls avec mon frère et qui s'est toujours vraiment battue pour s'en sortir, pour payer ses factures. Et donc, on n'a jamais trop manqué de rien. Mais par contre, c'est vrai que j'ai toujours vu ma mère lutter pour avoir, pour gagner 1800 euros, 2000 euros par mois. Et pour moi, dans ma tête, du coup, inconsciemment, je pense que je me disais, bah, en fait, Jess, peu importe le taf que tu vas fournir, peu importe ce que tu vas faire, comme j'ai eu ce modèle de ma mère qui gagnait pas forcément très bien sa vie, je me suis dit, bah, en fait, peu importe où tes efforts, tu gagneras 2000 euros par mois. Et en fait, pour moi, c'était déjà énorme. Et je m'en souviens, au tout départ, quand je commençais à toucher des 4-5 000 euros en auto-entreprise, mais j'étais là, mais genre, pour moi, ça me paraissait indécent, limite, parce que vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Pour moi, ça correspondait, tu vois, au salaire qu'un cadre pouvait se faire dans une grande start-up, à manager des dizaines de personnes, etc. Donc, j'ai eu un peu eu ce... En fait, le syndrome de l'imposteur, moi, je ne l'ai pas eu au début parce que j'étais un peu dans ma zone de confort, dans le sens où ce que je proposais pour mes clients en tant que, dans la prestation de service, je l'avais proposé en agence. Donc, je savais un peu ce que je faisais et tout. Mais là où j'ai eu un syndrome de l'imposteur, justement, c'est quand j'ai commencé à passer des paliers au niveau de mes revenus. Parce que vraiment, ça me confondait à ce truc. Putain, mais ma mère, vraiment, je l'ai vue lutter au travail, je l'ai vue faire plein de taf, mais qu'elle aimait pas, et tout ça pour gagner à peine de quoi vivre et à peine de quoi payer ses factures. Donc, pourquoi moi, en faisant un truc que je kiffe, genre et en ayant l'impression limite de pas travailler, bon bien sûr que c'était du travail mais ça restait ma passion, genre comment ça se fait que je touche autant d'argent? Et du coup, bah, qu'est-ce qui m'a aidée dans ce sens? Je pense que c'est beaucoup de contenu que j'ai trouvé finalement. Moi, YouTube, les podcasts, ça a toujours été mon refuge depuis que je suis adolescente, même, tu vois, à l'époque, je regardais beaucoup les youtubeuses beauté et tout. C'est un peu ma safe place, ma bulle. Et ben, il y a de plus en plus de contenus qui ont été développés dans la sphère entrepreneuriale. Et du coup, c'est vrai que j'ai entendu des personnes qui parlaient de leur rapport à l'argent, qui parlaient, de leur blocage aussi, de comment ils avaient surpassé. Et du coup, qui légitimaient aussi que, on peut gagner de l'argent sans être un requin, sans s'asseoir sur ses valeurs, parce que ça me faisait très peur aussi. Pour parler encore une fois de ma mère, c'est un peu le cliché de la nana anticapitaliste qui pense que tous les riches sont des connards, etc. Et du coup, j'avais aussi ça dans ma tête, et en fait, de rencontrer et même de, tu vois, virtuellement, même d'entendre des gens qui ont un business aligné et qui pourtant arrivent à faire beaucoup d'argent et qui utilisent aussi cet argent pour construire leur vie de rêve, mais aussi à des fins, tu vois, plus globales dans des associations et tout, je me suis dit, bah non, en fait, on peut gagner de l'argent et être une personne bien, tu vois. Et c'est bête, mais ça m'a beaucoup aidée. Et aussi, en parallèle, on en parlait tout à l'heure, mais Tony a commencé dans l'entrepreneuriat beaucoup plus tôt que moi, donc je l'ai vu aussi gagner beaucoup d'argent. Et voilà, et je sais que c'était pas un connard puisque c'était mon mec, donc ça m'a aussi aidé à comprendre que voilà, on pouvait faire les choses bien et gagner beaucoup d'argent. Et voilà, c'est toutes ces choses-là, et c'est pour ça que moi, à chaque fois, je dis que les réseaux sociaux, ok, ça a sa part de négatif parce qu'on peut vite tomber dans la comparaison, mais ça a aussi une part très positive, c'est que on rencontre, entre guillemets, même virtuellement, des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans la vie de tous les jours et qui nous ouvrent les yeux, en fait, sur des possibilités, sur des modes de vie auxquels on n'aurait jamais pu aspirer si il n'y avait pas eu Internet, tu vois. Moi, ouais. Le monde du freelancing, le monde de l'entrepreneuriat, pour moi, c'était genre que les Steve Jobs, c'était que des cercles fermés d'hommes, tu vois, riches en costard, cravate et tout. Bah, j'ai découvert que pas du tout, que tu pouvais très bien entreprendre d'une forme différente, beaucoup plus simple et qui soit toujours aligné avec tes valeurs et faire beaucoup d'argent. Et franchement, voilà, ça a été vraiment game changer pour moi. Donc voilà.
Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, et je te rejoins aussi sur les croyances là que tu as mentionnées. En ce moment, j'accompagne un groupe d'entrepreneurs à l'intérieur de mon coaching de groupe. Et la semaine dernière, on a travaillé sur justement le money mindset et toutes les croyances liées à l'argent. Et en fait, tu te rends compte vraiment que c'est toujours les mêmes croyances qui reviennent. Surtout quand tu viens un peu de la classe moyenne, comme t'as dit, avec ce truc-là de si tu veux faire beaucoup d'argent, il faut travailler très très dur. Ça, c'est un truc qui revient beaucoup. Et le truc de si je fais beaucoup d'argent, je vais devenir une mauvaise personne. Et ça, c'est, tu vois, c'est des trucs qui reviennent beaucoup. Et quelque chose qui aide beaucoup, tu vois, moi, je vois dans les nanas que j'accompagne sur ces problématiques-là, c'est aussi d'arriver à se détacher et de prendre conscience que t'es pas née avec ces croyances-là, qu'elles viennent de quelque part, et donc arriver à identifier d'où est-ce qu'elles viennent, et à toi ensuite te reprogrammer en te construisant toi des croyances qui sont basées sur des nouvelles preuves que tu as, sans te baser sur la croyance qu'on t'a apportée, sans qu'il y ait forcément de preuves, puisque ces croyances, elles t'appartiennent pas. Donc, c'est à toi d'aller te trouver de nouvelles preuves que ces croyances-là que tu portes, elles sont pas vraies, parce qu'il y a plein de choses autour de toi qui te prouvent que c'est pas vrai. Et justement, comme tu disais, aujourd'hui, on a cette possibilité juste trop ouf d'avoir accès grâce à Internet, à des entrepreneurs à succès. Tu vois, l'argent, ça devient quand même de moins en moins tabou, on en parle et tout. Donc, ça permet d'avoir accès à ces sphères-là, d'ouvrir les yeux, de voir ce qui est possible et d'arrêter de se restreindre à ce qu'on a connu et vraiment essayer de s'émanciper de ça, en fait.
Ouais, je te rejoins complètement. C'est vrai que tout le travail, finalement, c'est la première chose, c'est déjà d'identifier d'où viennent tes croyances limitantes et surtout, ouais, de comprendre qu'elles sont... Elles sont légitimes dans le sens où c'est ce que tu as vécu par rapport à ta famille, etc. C'est vraiment de l'expérience, mais qu'elles ne sont pas fondées, en fait. Et que, ouais, il y a plein d'autres modèles qui existent. Et que, bah ouais, c'est pas gagner de l'argent, en fait. C'est juste l'argent, c'est juste une énergie. Qu'après, c'est à toi de le dépenser comme tu veux. Et c'est pas une fin en soi non plus. Et en plus, c'est trop cool de gagner bien sa vie. Tu vois, il n'y a vraiment rien de mal là-dedans. Mais c'est vrai que de toute façon, on est forcément marqué par ce qui se passe pour nous dans l'enfance, au niveau de notre scolarité, au niveau de notre famille. Et je pense aussi, tu vois, j'avais aussi ce débat en message privé avec un abonné qui me disait « Oui, j'ai écouté tes épisodes de podcast où tu t'expliquais justement que tu venais d'une famille modeste et que du coup, tu avais un rapport à l'argent qui avait été compliqué en tout cas. » Il me disait « Mais aussi dans l'autre sens, et j'aimerais bien aussi rencontrer... enfin, peut-être échanger sur mon podcast, sur un épisode là-dessus avec une personne comme ça. » En fait, il disait « Moi, je suis venue d'une famille aisée. » Et justement, déjà, je trouve que c'est rare de trouver des personnes, tu vois, qui assument le fait de venir d'une famille aisée. Et il disait en fait « Mais moi aussi, j'ai plein de croyances. » Alors justement, c'est à l'inverse de toi. Mais au contraire, tu vois, ça m'a... En fait, il disait « J'ai l'impression que les personnes qui viennent de familles modestes ont plus la niaque. » Il disait « Moi, je suis restée très, très longtemps, en fait, dans ma zone de confort parce que, justement, je viens d'une famille aisée et j'avais pas forcément tendance à avoir la hargne, à savoir ce que je voulais faire, à sortir, à me sortir, entre guillemets, les doigts du cul parce que je savais que j'étais confortable. » Et donc, forcément, c'est aussi des choses qui l'ont bloqué, lui, à un moment donné, tu vois, de se reposer trop sur ses lauriers. Je pense que, tu vois, j'en connais d'autres aussi. J'ai des potes, pareil, qui viennent de familles aisées, mais par exemple, un pote qui vient d'une famille aisée, mais en fait, ses parents, eux, venaient d'une famille modeste. Donc, en fait, il les a entendus toute sa vie lui répéter qu'en gros, ils s'étaient fait eux-mêmes, qu'ils étaient arrivés en travaillant dur, etc. Et bah, lui, il traîne toutes ses casseroles de moi aussi, il faut que je prouve à mes parents, du coup, que je peux m'en sortir et qu'il faut moi aussi que je travaille dur. Donc, je pense que, en fait, venir d'une famille modeste ou d'une famille plus aisée, c'est des combats qui sont différents, mais par contre, c'est tout aussi compliqué, ça peut être tout aussi compliqué au niveau des batailles que tu as à livrer, quoi.
Ouais, carrément. Et je pense qu'il y a ce truc, comme tu disais, quand tu viens d'une famille un peu plus aisée, là où c'est encore plus tabou, parce que tu viens d'une famille aisée, entre guillemets, et si toi, peut-être, tu réussis pas, ou si peut-être toi, tu te bats pas autant, tu vois, on va peut-être encore plus t'en foutre plein la gueule parce que t'es né avec une cuillère en argent dans la bouche, truc et machin, tu vois. Donc, c'est hyper intéressant aussi, tu vois, de le voir de ce côté-là, parce que je dis pas que c'est plus facile, mais je pense que quand tu viens d'une famille modeste, en effet, t'as davantage peut-être ce truc-là de « j'ai pas envie de reproduire ce qu'ont fait mes parents, j'ai pas envie d'avoir le style de vie qu'ils ont eu, donc si je veux m'en sortir, je sais qu'il va falloir que je me bouge le cul, que je me sorte les doigts, que je passe à l'action, etc. » Alors que dans le sens inverse, il peut y avoir, pareil, des croyances limitantes ou des blocages ou quoi, mais qui te bloquent tout autant, en fait. Et ça, c'est vrai qu'on en parle pas souvent, tu vois, au final.
Ouais, et même d'autres traumas... Par exemple, je sais pas moi, si oui, tes parents, ils étaient très aisés, mais parce qu'ils passaient leur vie au travail, tu peux avoir le trauma de « j'ai pas eu assez d'amour, mes parents, ils étaient pas là pour moi », donc tu vas avoir d'autres problèmes d'estime, de confiance, etc. Moi, à ce niveau-là, tu vois, ça a été, par contre, incroyable, parce que ma mère, elle m'a toujours soutenue. J'ai toujours eu cet amour-là et ça m'a beaucoup aidée aussi, je pense, dans l'entrepreneuriat quelque part. Donc, je pense qu'on a tous des parcours différents, mais comme tu dis, l'important, c'est d'identifier, de comprendre un peu d'où on vient, comment est-ce qu'on fonctionne, quel traumatisme on a eu. Et du coup, déjà, rien que d'identifier ça, ça nous permet de mieux gérer les choses par la suite, quoi.
Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. J'avais envie de te poser une question aussi, parce qu'il n'y a pas longtemps, tu as fait un post qui m'a trop parlé et j'ai trouvé ça trop chouette que t'en parles et comme d'ailleurs plein de sujets dont tu parles, c'est toujours hyper hyper cash et t'as pas peur de mettre les deux pieds dans le plat, et ça j'aime trop ta manière de faire et de parler, tu vois, de sujets qui pourraient être un peu tabous et d'arriver et de dire ben non, en fait on va en parler parce qu'il faut en parler. Et j'ai trop aimé ton post sur le fait de passer en société, dans lequel tu disais que tu venais de passer en société et que ça faisait pas de toi, ça voulait pas dire en fait que ça y est tu jouais dans la cour des grands, ça faisait pas de toi une plus grande entrepreneur, parce que c'est vrai que ça c'est un autre truc qu'on voit souvent, qu'on entend souvent, que moi j'ai beaucoup entendu aussi, parce que moi je suis toujours en micro-entreprise, le truc de dire ah mais non mais tu vas voir meuf, le jour où tu vas passer en société, tu vas être en mode là, tu vas vraiment capter que c'est complètement différent, que ça y est t'es dans la cour des grands, justement c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, et toi tu t'as pas du tout ce genre de discours, pourquoi ?
Ouais, non, moi déjà je supporte pas ce que j'appelle le snobisme un peu ouais. entrepreneurial des gens qui se prennent un peu au-dessus des autres parce qu'ils sont en société alors que les autres sont en micro et tout. Il y a même des gens qui considèrent que par exemple les freelances ne sont pas des entrepreneurs, que les prestataires de services ne sont pas des entrepreneurs, etc. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça, et justement je trouve qu'on a trop tendance, tu vois, moi je le vois beaucoup avec mes élèves, avec les femmes que j'accompagne, elles ont toujours tendance à minimiser ce qu'elles font. C'est toujours ma petite entreprise, ma petite activité, mon petit chiffre d'affaires, mon petit truc et tout machin. Et sauf qu'en fait, déjà pour moi, avoir de l'ambition, c'est pas forcément que vouloir gagner énormément d'argent, c'est pas forcément que vouloir embaucher des salariés, avoir des grosses équipes, mettre des gros moyens, etc. Pour moi, une nana ambitieuse, ça peut être tout simplement une meuf qui veut gagner entre guillemets, je sais pas moi, 2000 euros par mois, et juste avoir beaucoup de temps pour sa vie de famille ou pour ses passions, pour voyager, bref, peu importe en fait. Pour moi, l'ambition, c'est pas que vraiment être dans des grosses sociétés, dans des grosses structures, avoir des grosses ambitions en termes de chiffre d'affaires, c'est plus savoir qui on est et se sortir des doigts du cul pour être heureuse de la façon dont on est vraiment heureuse. Et du coup voilà, c'est pour ça que je trouvais ça important. Moi je suis passée en société, mais c'est parce que j'avais plus le choix, parce que je dépassais les seuils. Mais vraiment, genre mon quotidien et ce que je fais au quotidien, moi, n'a pas changé par rapport à la micro-entreprise. Bon, il y a un peu plus de compta, et ça c'est un peu oui. plus relou. C'est voilà, un fonctionnement qui est un peu différent. Mais en soi, ça change rien à l'activité, à ce que je fais tous les jours, et mes ambitions elles ont pas changé, et la façon dont je vois mon entreprise n'a pas changé non plus quoi. Donc finalement, c'est juste des statuts. Je sais qu'il y a aussi, tu vois, moi je connais des gens qui au départ n'ont même pas commencé par une micro-entreprise parce qu'ils voulaient juste avoir la fame de, en se présentant, dire ah bah moi j'ai une société, tu vois. Et moi c'est vraiment tout ce que je déteste. Enfin, je trouve que voilà, c'est juste nourrir un ego, alors qu'au final je connais des micro-entrepreneurs qui sont beaucoup plus rentables que des gens qui ont des sociétés, tu vois. Donc ça veut vraiment vraiment rien dire.
Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, et j'en parlais il y a, en venant ici au Pays Basque là avec mon mari, parce qu'on parlait de l'argent tout à l'heure, et le truc de oui, l'argent c'est de moins en moins tabou, mais en fait ouais, c'est de moins en moins tabou parce qu'en fait les gens parlent de leur chiffre d'affaires, mais derrière, comme tu dis, en fait tu peux dire ouais, j'ai fait je sais pas moi 100 000 balles de chiffre d'affaires sur le mois de février, mais derrière il est réparti comment cet argent, qu'est-ce qui te reste à la fin, comment, et en fait c'est ouais, exactement, tu vois. Et c'est facile, entre guillemets, d'annoncer un gros chiffre d'affaires. Mais derrière, vraiment, il y a quoi, tu vois? Et c'est exactement, c'est la même chose que ce que tu disais. Oui, tu peux dire que t'as une société, que truc et machin. Mais derrière, c'est quoi la rentabilité, en fait?
Et ça, c'est vrai qu'on a vu, parce qu'on, je sais que t'étais à Bali aussi, donc tu connais un peu, mais on a rencontré beaucoup de gens là-bas. Et on a rencontré justement beaucoup d'entrepreneurs qui sont tomber un peu dans ce piège du toujours plus, c'est-à-dire toujours plus de chiffre d'affaires, toujours plus de clients, mais du coup, qui dit plus de chiffre d'affaires et plus de clients, dit plus gros effort marketing, dit plus de salariés ou plus de prestataires, et qui finalement, en fait, se sont retrouvés déjà non plus à être dans le processus de création, mais être dans le processus de management plus qu'autre chose, qui leur correspondait pas du tout. Et au final, pour une rentabilité qui est beaucoup moins importante, parce que même s'ils font plus de chiffre d'affaires, ils ont tellement plus de charges, tellement plus de coûts, qu'au final, ce qui leur reste dans la poche à la fin du mois, c'est beaucoup moins important qu'avant. Et donc voilà, faut faire vachement gaffe à ça, parce que justement sur les réseaux, bien sûr que on le disait juste avant, bien gagner sa vie et faire beaucoup de chiffres, c'est trop bien, mais il faut aussi, tu vois, se fixer des non négociables. Je pense qu'on peut vraiment définir ça comme ça, se fixer des non négociables en mode, bah, moi, qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer dans mon entreprise? Et moi, c'est pour ça que, par exemple, cette posture de manager, je pourrais, si je voulais faire plus de chiffre d'affaires, sortir des énormes programmes avec toute une équipe de closers, avec des assistantes, avec des coachs, plein de trucs et tout machin. Je pourrais le faire, je pourrais clairement le faire et je ferais plus de chiffres. Mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie de continuer à ne pas avoir le moins de contraintes horaires possibles, à ne pas manager, mais vraiment à rester sur le processus de création, à rester proche de ma communauté aussi. Et du coup, c'est un vrai choix. Et je pense que c'est tout un travail parce que finalement, c'est un travail même qui peut être, tu vois, parce qu'on évolue aussi, donc des fois, on peut avoir des envies et peut-être que ça a changé tout. Donc, c'est un travail qui est très complexe à faire, mais je pense qu'il est très important parce qu'on peut vite se retrouver dans une forme entrepreneuriale qui nous correspond plus du tout. Et moi, ça, je le vois grave, surtout quand on est à Bali, quand on voyage et quand on rencontre de nouveaux entrepreneurs. Et c'est là qu'on se voit, qu'on se dit, mais en fait, c'est non négociable. Il faut vraiment pas faire l'impasse dessus. Qu'est-ce qui est non négociable pour moi au niveau de mes valeurs, enfin au niveau de mon style de vie perso, et qu'est-ce qui est non négociable aussi au niveau pro, c'est-à-dire quelles sont les valeurs sur lesquelles tu veux pas t'asseoir, parce que pareil, il y a plein, en termes, si on parle de stratégie marketing, il y en a plein. Moi, j'utilise que des stratégies marketing avec lesquelles je suis 100% alignée, et je sais que c'est pas grâce à ça, enfin quelque part, si j'utilisais des stratégies un peu plus douteuses, je pourrais faire beaucoup plus de chiffres, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et moi, j'ai toujours envie d'être présente dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Et pour moi, cette vision à long terme, elle est beaucoup plus importante qu'une vision à court terme, tu vois. Donc, je pense que ce qui est compliqué, c'est que dans l'entrepreneuriat, il y en a beaucoup qui se lancent aussi quand ils sont jeunes, et c'est trop bien. Mais en même temps, plus t'es jeune et plus t'es influençable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, maintenant, j'ai 31 ans. J'ai su définir ce qui était important pour moi dans ma vie. Et je me connais beaucoup plus que tu vois à 20 ou à 25 ans forcément. Et du coup, je sais ce que je veux et surtout ce que je ne veux plus. Et ça a été vraiment mon guide entrepreneurial, tu vois. C'est super important.
Ouais. Et puis, comme tu disais, de définir ouais, tes valeurs et tes non négociables, en fait, c'est les fondations après qui vont définir un petit peu toutes les prises d'action ou justement les prises de non-action en ayant vraiment ce cadre qui va être ta direction derrière pour être sûr d'avancer en étant aligné avec ce que tu as envie, avec tes valeurs, avec ce qui est important pour toi, avec ce pourquoi tu as envie de te battre aussi et que ce soit ancré sur ta mission, la manière dont tu as envie de vivre ta vie. Donc c'est important, en effet, je te rejoins, de faire ce travail en amont-là. Qu'est-ce que toi, tu as appris de ton passage en société? Parce que je pense que bon, tu apprends des choses quand tu crées ton entreprise, mais je pense que tu as appris d'autres choses encore quand t'es passé en société, en fait.
Ouais. Bah alors, c'est très récent quand même. Hein. Ça fait un mois que je suis passée en société. Donc, c'est vraiment... Après, pour le coup, pour l'instant, j'ai pas d'énormes leçons à partager par rapport à ça. Maintenant, ce qui est cool, c'est plus sur une partie technique. C'est que tu peux passer plus de choses en charge. Donc ça, c'est quand même bien. Et ensuite, ça te permet aussi d'avoir une meilleure tenue de budget. Pourquoi ? Parce que quand tu as un micro-entreprise, l'argent entre l'argent pro et l'argent perso, c'est pas opaque en fait. C'est assez bon, il y a des règles financières qui font que tu te dis oui, normalement, je suis censée mettre 10% de ma trésorerie, 10% de mon CA mensuel en trésorerie, etc. Mais moi, je sais que je l'ai pas toujours fait. Honnêtement, c'était plus voilà, quand j'ai, je paye mes cotisations URSSAF et ma TVA, et après le reste, bon bah vas-y, si j'ai envie de piocher dedans, voilà, c'est plus ou moins ma rémunération, mon compte personnel. Là, en société, ça n'existe pas parce que tu dois te verser une rémunération mensuelle fixe, et après tu peux aussi te verser des dividendes une fois par an. Mais c'est quand même beaucoup plus opaque en fait entre ton argent pro et ton argent perso. Donc ça me permet quand même, c'est quand même pour moi un avantage dans le sens où justement t'es moins tenté entre guillemets d'acheter des trucs dont t'as pas forcément besoin entre guillemets, et ça te permet vraiment d'avoir un cadre. Et ça finalement c'est une bonne chose parce que ouais, ça te permet de plus économiser et de plus investir aussi, même si l'investissement pour le coup c'est quelque chose que j'ai fait directement même quand j'étais en micro. Ça c'est aussi pour moi une autre forme de liberté, tu vois, d'investir. Là ça se passe très bien au niveau de mon entreprise et je touche du bois, là on me voit pas mais sur mon bureau, enfin si on me voit du coup sur mon bureau pour que ça continue de marcher comme ça. Mais je pars du principe aussi que, tu vois, genre, je te l'ai dit au début, je suis une femme de liberté. Et pour moi, plus t'as de sources de revenus différentes, plus t'es libre, parce que plus t'as le choix, en fait. Et ouais, c'est vraiment mon objectif de me dire d'ici 5-10 ans, ben voilà, j'ai des appartements pour lesquels j'ai des rentes, j'ai du coup un patrimoine, j'ai investi en bourse, j'ai investi en crypto, et du coup, c'est des assets qui sont différents de ma société, mais pour moi, c'est aussi super important.
Ouais, c'est hyper important, je te rejoins. Et bon, là, on a parlé, tu vois, Jess, depuis le début de toutes tes réussites, tous les trucs trop stylés et tout, mais est-ce qu'il y a eu des échecs pendant ces années d'entrepreneuriat ?
Alors, des échecs, alors moi, des échecs, j'en ai eu déjà beaucoup. Ouais, c'est toujours le mot énorme, mais justement, souvent on se rend compte après que souvent c'est des apprentissages. Pour moi, les échecs, j'en ai connu plus quand j'étais justement salariée que dans l'entrepreneuriat finalement. Vraiment pour moi, je me suis fait virer du jour au lendemain de mon agence de communication, c'était vraiment un énorme échec. Enfin, tout le monde en fait voyait ça comme un échec parce que ça fait un an que t'es en CDI, même un peu plus, que les gens t'imaginent au fur et à mesure progresser, monter en compétences, et puis rester dans ton CDI. Et finalement, tu te fais virer du jour au lendemain, tu sais, c'est un peu, tu te retrouves au chômage, du coup les gens ils te retrouvent, t'as toujours un peu ce regard des autres qui est compliqué. Et sur le coup, ouais, je l'ai vécu comme un échec. Je me suis dit, mais meuf, t'es nulle, tu vois, de te faire virer. Alors qu'au final, il y a eu plein de choses qui ont fait que c'était pas forcément de ma faute. Mais par A plus B, au moment où tu le vis quand même comme un échec. Et en fait, plus tard, tu te rends compte que, enfin, moi, maintenant, quand on me demande, je dis, mais c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver dans la vie. C'était de me faire virer. Vraiment. C'était parce que pour moi, c'est le déclic qui a fait que je me suis mise de manière sérieuse dans mon activité auto-entrepreneur. Et en fait, s'il n'y avait pas eu ça, je serais peut-être restée salariée toute ma vie. Et en fait, j'aurais eu une vie qui ne me correspond pas parce que quand j'étais en CDI, même si ça n'a pas duré très longtemps, je savais que je n'étais pas à ma place. En vrai, au fond de moi, je le savais parce que ça ne me faisait pas vibrer tous les jours quand j'allais au bureau. Et il y a plein de salariés à qui ça convient et tant mieux parce qu'on est tous différents, mais moi je savais que c'était pas ma place et je m'écoutais pas en fait. Et vraiment d'avoir pris ce coup de massue derrière la tête en mode je me fais virer, ça m'a permis de reposer les bases, de vraiment introspecter et de me lancer dans quelque chose qui est mille fois plus adapté à ma personnalité et à mon énergie. Donc finalement cet échec il s'est grave transformé en apprentissage et finalement en succès même. Et après, en entrepreneuriat, bien sûr, il y a des stratégies qui fonctionnent moins bien que d'autres. Il y a des contenus qui fonctionnent moins bien que d'autres. Il y a des offres qui marchent moins bien que d'autres aussi. Mais en fait, j'ai tellement, je suis tellement reconnaissante. Je pense que ça, c'est aussi lié à mon aventure salariale. Je suis tellement reconnaissante au quotidien d'être entrepreneuse, dans tous les cas, parce que j'ai tellement connu quelque chose qui ne me correspondait pas dans le salariat que... même s'il y a des petits coups de moins bien des fois et tout, genre je vais pas le vivre de manière trop négative parce que dans tous les cas je suis hyper reconnaissante. Bien sûr que j'ai des coups de moins bien, mais j'arrive quand même assez bien à les gérer. Après c'est aussi arriver à prendre du recul sur c'est des stratégies qui ont pas marché. C'est pas moi qu'il faut remettre en question. C'est vraiment vraiment de manière factuelle, de manière très statistique, regarder à quoi c'est dû, etc. Mais c'est pas moi. Vraiment se réussir à se détacher. Et puis je pense que ce qui m'aide aussi, c'est d'être avec un entrepreneur. On a parlé un peu au début, mais c'est vrai que quand tu te lances dans ton activité, tu peux très vite te sentir seule parce que tu mènes ton projet de A à Z. Tes coups de moins bien, tu les vis tout seul, etc. Et surtout quand t'as pas un entourage qui est entrepreneur du tout. Mais moi, c'est vrai que d'entreprendre avec Tony, qui lui a sa société, enfin son entreprise depuis 6-7 ans maintenant, forcément, c'est une force parce qu'on se comprend, parce qu'on se parle beaucoup, parce qu'on partage tout ensemble, on partage nos réussites, nos échecs, nos coups de moins bien, nos coups de trop bien. Et forcément, c'est une force et ça nous permet vraiment de prendre du recul, quoi.
Ouais, on en revient encore, tu vois, à l'entourage, et je te rejoins, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu parce que dans mon entourage, il y a pas d'entrepreneur à part mon mari qui est entrepreneur et maintenant ma sœur qui s'y est mise aussi. Mais pendant des années et encore même des fois, tu vois, ça m'arrive ce truc de me sentir un peu seule, d'autant plus quand tu taffes tout seul dans ton biz et que t'as personne, entre guillemets, avec qui brainstormer quand t'as des idées d'offres et tout. Tu vois, genre, je pourrais brainstormer avec mon mari, mais enfin, il est pas du tout dans la même thématique que moi. On n'a pas du tout les mêmes croyances, entre guillemets, tu vois. Donc, c'est toujours un peu délicat. C'est quoi, toi, tes conseils, justement, tu vois, une entrepreneur qui commencerait et qui a envie de s'entourer d'autres entrepreneurs pour pouvoir se supporter et tout ça, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu vas pour rentrer dans des cercles, justement, et découvrir des gens qui sont un peu dans le même délire que toi?
Aller à Bali.
De fou.
Je pense que tu ne diras pas le contraire. Non, mais c'est vrai qu'il y a... Bah, tu connais Bali, donc c'est vrai que à Canggu, en fait, c'est très petit et tu as une concentration d'entrepreneurs au mètre carré qui est absolument hallucinante. Donc, en vrai, c'est génial parce que, bah, en fait, quand tu vas là-bas, tu es sûr que tu vas rencontrer des gens qui sont comme toi et qui vivent les mêmes problématiques que toi, qui ont les mêmes enjeux que toi. Et donc, forcément, bah, naturellement, tu vas te faire un cercle comme ça. Pas besoin non plus obligatoirement d'aller à Bali. Moi, je me suis rendu compte, j'avais beaucoup d'a priori en rentrant en France et je me suis dit, ouais, ça va être compliqué de rencontrer des nanas. Alors, même si je suis dans une grande ville, j'habite à Montpellier, mais je m'étais dit, ouais, ça va être plus compliqué qu'à Bali et tout. Et alors, bien sûr qu'il y a moins d'entrepreneurs au mètre carré, mais par contre, on peut quand même en rencontrer. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un compte Insta et du coup, bah, souvent, je reçois des messages en mode « oui, tu vas aller boire un verre ». Donc forcément, ça a créé des liens. Et, mais il y a aussi des réseaux d'entrepreneuses, je sais, qui sont officiels ou non officiels aussi. Donc vraiment, je dirais s'ouvrir, ne pas hésiter à regarder les coworking. Moi aussi, les coworking, ça a été vraiment game changer. À partir du moment où je suis allée dans des coworking, limite impossible de retaffer à la maison ou de retaffer dans un café. Vraiment, l'ambiance coworking est trop bien et tu fais grave de rencontres. Mais vraiment pas hésiter, soit aller dans des coworking, soit si t'as pas le budget, même d'aller dans des cafés autour de chez toi, de regarder même dans les stories de ce café, bah t'as forcément des gens qui viennent bosser. Maintenant t'as beaucoup de gens qui sont en remote, qui sont à leur compte, etc. Donc pas hésiter à les contacter, à essayer d'aller boire des verres avec ce genre de personnes. Et en fait c'est comme ça que tu crées des liens facilement. Et franchement je pense que maintenant avec le nombre d'auto-entrepreneurs, avec tout ce qui se passe en termes de réseau, c'est assez simple quand même de rencontrer et de se faire de rencontrer des gens qui font la même chose que toi et de se créer un cercle. Et c'est vrai que maintenant, bah, même à Montpellier, tu vois, j'ai ma petite team d'entrepreneuses. D'ailleurs, ce soir, on va faire un resto tout ensemble. Et c'est vrai que ça permet de vraiment d'échanger, de brainstormer et puis de voir que bah ouais, en fait, t'es pas toute seule au monde à vivre entre guillemets des fois des galères. Il y a des gens qui sont comme toi, qui font la même chose que toi et qui passent par les mêmes choses que toi. Et forcément, bah, t'en tires que du positif. Et voilà. Mais après, c'est vrai que Bali, moi, ça a vraiment marqué un avant et un après parce que j'ai rencontré énormément de personnes là-bas. Et maintenant, des amis qui sont très très proches et qui ont aussi leurs activités. Et tu vois, on s'organisait par exemple des hot seats. Voilà. Enfin, c'est des trucs qui font toute la différence, c'est vrai, quand tu te sens un peu seul. Et voilà, je pense que c'est hyper important.
Ouais, et puis ça demande aussi, tu vois, de se sortir un peu les doigts et d'aller, comme tu disais, au-delà de Bali, de trucs et machin, c'est vraiment d'aller dans les environnements dans lesquels tu vas trouver le type de personnes avec lesquelles tu as envie de t'entourer, en fait. Mmh. Et c'est pas attendre qu'on vienne vers toi non plus, mais c'est aller à la aller chercher ces endroits là où tu vas trouver ces personnes là. Et tu parlais tout à l'heure de stratégies qui marchent, de stratégies qui marchent pas pour avoir des résultats. Une petite dernière question pour toi. Comment est-ce que en 2024, vu que t'es la spécialiste d'Instagram, comment est-ce qu'on fait pour sortir du lot sur Instagram en 2024? Comment est-ce qu'on fait pour aller trouver des clients, se faire connaître, etc.? C'est quoi qui selon toi va marcher cette année?
C'est vrai que ça a changé dans le sens où il y a de plus en plus, alors ça c'est cool hein, parce qu'il y a de plus en plus de freelance, d'entrepreneurs, de gens qui se lancent sur Instagram, mais du coup l'aspect négatif de ça c'est qu'il y a de plus en plus de concurrents sur Instagram, il y a de plus en plus de contenus qui sont postés, qui sont créés, donc forcément c'est plus dur qu'avant d'avoir des résultats, d'avoir du reach, d'avoir entre guillemets l'algorithme dans la poche, d'avoir des vues, d'avoir de l'engagement, d'avoir des ventes grâce à Instagram. Maintenant c'est possible, pour moi il y a deux choses qui sont fondamentales, c'est premièrement effectivement d'avoir une vraie stratégie, c'est-à-dire bien, on en revient aux bases, hein, mais c'est bien définir ta cible, bien définir ton positionnement, à qui tu t'adresses, comment tu t'adresses t'intéresses à cette personne et ce que tu vas lui proposer, comment est-ce que tu vas lui faire comprendre que t'es la bonne personne pour répondre à ses problématiques. Et la deuxième chose aussi, justement, tu parlais de sortir du lot, c'est vraiment pour ça, c'est au-delà de la stratégie et au-delà d'avoir des contenus qui sont pertinents, qui sont à forte valeur ajoutée, qui sont qualitatifs, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant ça, oui, mais moi, j'ai déjà l'impression de poster du contenu, voilà, qui est bien adapté à ma cible et tout. C'est vraiment avoir un ton de communication qui est un peu différent. On reste sur un réseau social, Instagram, donc on a besoin d'avoir du social, on a besoin de ressentir qu'il y a une personnalité derrière toutes ces vidéos, derrière tous ces écrits, derrière toutes ces légendes. On a besoin de ressentir un tempérament, tu vois. Et donc, il faut apprendre à se servir du pouvoir des mots, du pouvoir des visuels, apprendre à capter l'attention. Donc ça, c'est, moi, je parle beaucoup de copywriting de contenu. C'est les accroches que tu vas faire. C'est comment est-ce que tu vas vraiment capter l'attention? Comment est-ce que tu vas faire pour que la personne qui voit ton contenu reste de la première seconde à la dernière seconde? Donc vraiment, ça, c'est hyper important. Les accroches, pour moi, c'est fondamental. Et après, si on parle en termes de format, forcément, quand on va avoir de la visibilité pour quelqu'un qui commence, ce que je conseillerais, c'est les Reels, parce que c'est un format, sur tous les tests qui ont été faits, en moyenne, c'est deux fois plus de visibilité et de reach que n'importe quel autre format sur Instagram. Donc forcément, quand on commence, c'est une bonne stratégie que de faire des Reels. Mais pareil, il y a beaucoup de croyances qui sont liées à ça. Il y en a qui pensent que voilà, il faut forcément montrer sa tête, il faut forcément danser ou pointer des trucs du doigt et tout. Pas du tout. Il y a plein de manières de faire des reels. Ça peut être des mèmes, ça peut être oui des facecam, mais ça peut être aussi des plans de coupe, ça peut être des sessions questions-réponses, ça peut être des tutos, ça peut être vraiment plein de choses. Je pense que ce qu'il y a d'aussi d'important, et moi j'en parle beaucoup, c'est de faire des choses qui nous ressemblent et vraiment de se baser sur ses appétences et voilà, de proposer un contenu en fait qui nous correspond à 3000%. Mais ça, encore une fois, pour le découvrir et pour l'affiner, il faut commencer à poster. Il faut arrêter de se poser des questions. On en revient encore une fois à ça. Mais il faut arrêter de se poser des questions, balancer un maximum de contenu, voir ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, ce que notre audience, elle apprécie, ce qu'elle apprécie moins, nous, dans quoi est-ce qu'on prend notre pied aussi. Et c'est en faisant ces réajustements qu'on arrive de plus en plus à trouver sa voie sur Instagram. Mais effectivement, je pense qu'il y a deux choses, ouais, c'est la stratégie de contenu et le copywriting de contenu. Vraiment proposer des contenus qui sont de plus en plus originaux aussi. S'inspirer, en fait, ce qui est un peu tricky, c'est que quand on se lance, en général, on a tendance à reproduire ce que font nos concurrents. Et moi, c'est tout l'inverse que je recommande. C'est pas qu'il faut pas aller voir ses concurrents, bien sûr que si, il faut regarder aussi ce qu'ils font. Mais moi, les meilleures idées que je peux avoir, c'est en consommant des contenus qui sont pas forcément dans ma thématique. Je suis très peu de personnes qui sont dans le business ou qui donnent des conseils sur Instagram. Par contre, je suis beaucoup de personnes, tu vois, dans la beauté, dans la mode, dans le lifestyle, dans n'importe quoi. Et en fait, c'est aussi comme ça que je me dis, mais en fait, leurs concepts, ils sont trop cool, ils sont trop dynamiques, ils sont trop fun. Genre, comment est-ce que moi, je pourrais me les approprier dans ma thématique? Et ça permet aussi d'avoir de nouvelles idées, d'innover un peu. Et voilà, comprendre aussi, dernier conseil, comprendre qu'on s'adresse à des humains et que oui, c'est important d'avoir du reach, oui, c'est important d'avoir de la visibilité, mais ce qu'il y a d'encore plus important, c'est d'arriver à créer une vraie relation avec ses abonnés. Je connais des comptes Instagram qui ont 100 000 abonnés, qui ont une communauté beaucoup moins engagée que des personnes qui ont 1000 abonnés. Parce que ce qui compte, c'est la relation que tu crées avec tes abonnés, c'est à quel point ils te font confiance, à quel point pour eux, t'es une référence dans ton domaine, ce que tu leur as prouvé, la confiance qu'ils ont envers toi et envers ce que tu fais. Et c'est vraiment ça qui permet de vendre. Si vraiment on parle de vente et pas juste de vanity metrics, ce qui est le plus important, c'est d'avoir une communauté entre guillemets, je mets des gros guillemets parce que j'aime pas trop ce terme, mais de fans, vraiment de personnes qui sont là parce que t'es toi, tu vois, et parce que t'es la référence dans ton domaine. Et c'est bien plus important que juste avoir des vues, quoi.
Ouais, je te rejoins, c'est hyper intéressant tout ce que tu dis. Et justement, comment ne pas tomber, j'en parlais il n'y a pas longtemps sur les réseaux, sur Insta là, mais comment, selon toi, comment ne pas tomber dans juste le truc de ouais, t'es une nana trop inspirante, et ouais, t'es une nana trop inspirante, mais j'ai envie d'acheter chez toi parce que t'as une expertise et t'es pas juste une personnalité qui m'inspire.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire parce que la limite, elle est assez fine et c'est cool d'inspirer, mais c'est vrai que je trouve que c'est aussi important que les gens viennent vers toi pour tes compétences et pour ton savoir-faire. Donc là, si c'est aux personnes qui sont dans ce cas-là, je les conseillerais plutôt de vraiment de faire des contenus très éducatifs, c'est-à-dire vraiment de montrer par A plus B, aussi de faire des études de cas, beaucoup d'études de cas, de partager des témoignages clients, de montrer vraiment par A plus B comment est-ce que tu apportes de la transformation aux personnes que t'aides. Donc vraiment à sortir ton autorité à ce niveau-là et pas juste faire ce qu'on appelle du storytelling finalement. Bien que les deux soient très complémentaires finalement, hein, mais c'est vrai que ce genre de contenu vraiment en mécanisation où tu montres par A plus B que ta méthode fonctionne, elle passe beaucoup par le témoignage de tes clients, par des contenus hyper éducatifs ou par des avant-après, ça c'est hyper important, je pense que c'est complémentaire.
Trop bien, merci pour tous ces tips et pour toutes ces infos. Je pense que les filles qui vont nous écouter vont être aux anges d'avoir entendu tout ça. Et du coup, dernière petite question. Bon, après, je t'ai pas dit, mais oui, à la fin des épisodes en interview, il y a 5 petites questions flash pour apprendre encore plus à te connaître. Parce que oui, après une heure d'épisode, on a encore envie d'en savoir plus sur toi, Jessica.
Ah bon?
Mais avant de finir, juste vite fait, après je mettrai toutes tes infos dans la description de l'épisode. Mais s'il y a des auditrices qui ont envie de te découvrir, c'est quoi les plateformes sur lesquelles est-ce que tu as envie de les renvoyer?
Bah Instagram du coup @jessicadeprater, même si mon nom de famille est assez compliqué. Donc je te compte sur toi pour mettre de toute façon le lien dans la description. Et mon podcast aussi, parce que j'ai aussi un podcast qui s'appelle Pause Laté, donc qu'on peut trouver sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast, voilà.
Trop bien. Ben, il y aura tous les liens de toute manière dans la description de l'épisode. Et si c'est OK pour toi, on va passer aux 5 questions flash. C'est des questions un peu plus d'inspiration pour qu'on puisse un peu davantage cerner qui tu es. Si jamais tu as envie de recommander des trucs et tout ça, enfin, tu vas avoir l'idée, c'est que tu répondes un peu du tac au tac avec ce qui te vient en premier. OK?
OK, let's go.
Si tu pouvais être un animal, lequel serais-tu et pourquoi?
Waouh, ah ouais. Non, le premier truc qui me vient en tête, alors j'ai pas la race entre guillemets, mais ce serait un oiseau, je pense, justement okay. Par rapport à cette symbolique de liberté, voilà, qui vole de ses propres ailes, qui peut aller d'un endroit à un autre hyper facilement, voilà, qui a pas trop de cadre, qui est pas en cage, justement qu'on n'enferme pas. Je dirais que ce serait un oiseau, ouais. Bon, pas un pigeon, mais. Une colombe ou quoi, je sais pas.
Ouais, un oiseau stylé quand même.
Voilà, c'est ça.
T'es Verseau, c'est ça? Ton signe astro, c'est
ouais,
Verseau?
Ouais, c'est ça.
Ouais, ça se ressent dans tes réponses à chaque fois.
Ouais, c'est ce qu'on me dit en général, c'est que ça me correspond plutôt bien, ouais.
Ouais, trop cool. Un livre que tu souhaites recommander?
Alors, un livre, en vrai, là, je vais te décevoir, mais je suis très peu lecture. Genre, vraiment, okay. Je pense, à part les tomes d'Harry Potter quand j'étais ado, j'ai quasiment rien lu. Vraiment, genre, j'ai aucun livre à recommander. Moi, je suis plutôt podcast.
Ok, donc, c'était ma question d'après, mais vas-y.
Ok. Désolée, du coup, je pourrais pas répondre à ça. Podcast. Alors, moi, il y a un podcast qui m'a beaucoup aidée, notamment quand quand on était en confinement. C'est le podcast de Chloé Bloom. Que je pense que tu dois connaître, donc qui m'a pas mal aidé justement au niveau dev perso. Au niveau pro, j'ai 2 podcasts en tête qui sont les podcasts d'Aline Bartoli de The Bee Boost et Build Yourself de Safia Gourari. Donc vraiment qui sont des pépites en termes de business et d'entrepreneuriat, justement qui sont beaucoup dans ce truc de business et stratégie alignée. Donc vraiment comment trouver plus de clients et comment développer une entreprise rentable, mais tout en restant alignée à ses valeurs. Et sur le côté plus lifestyle, parce qu'il y a de plus en plus d'influenceuses qui se mettent au podcast.
C'est vrai, ouais.
Et ça, c'est trop cool parce que elles parlent de choses des fois avec plus de légèreté que, tu vois, certains entrepreneurs qui peuvent faire des podcasts vraiment très lourds en termes d'informations. Je dirais contre-soirée d'Anna RVR et le podcast de Léna Situation aussi que j'adore, Canapé Cyclas.
Ouais, trop bien. Merci pour toutes les recommandations. Ton mantra dans la vie?
Mon mantra dans la vie, je suis censée donner une citation,
ouais, une citation, un truc qui, ou un truc, une citation ancrée sur tes valeurs, sur ce qui te fait avancer au jour le jour, ouais.
Ouais, alors je sais pas si j'ai une citation vraiment toute faite, mais en tout cas pour moi le plus important dans la vie, c'est de croire en ses rêves et de croire en soi. Voilà, ça fait peut-être très bateau, mais je pense que c'est la base de tout. C'est se connaître pour savoir ce qui nous fait du bien et ce vers quoi on aspire, et se donner les moyens d'atteindre ces objectifs, et aussi comprendre qu'on le mérite. Vraiment comprendre qu'on le mérite, je pense que c'est game changer, parce que des fois, on se dit juste, moi, tu vois, c'est... Pour le coup, quand j'étais en études, c'était vraiment ça. C'était, je savais que c'était pas tant fait pour moi le salariat ensuite, mais j'y suis quand même allée parce que c'était ce que tout le monde faisait, et que finalement, je m'étais dit, mais pourquoi est-ce que moi, je mériterais mieux, et pourquoi est-ce que moi, je mériterais quelque chose de différent? Mais en fait, si, on mérite tous de réaliser ses rêves et d'avoir une vie qui nous correspond, quoi. Désolée pour un truc flash, je parle beaucoup, mais...
Non, mais j'adore, c'est trop intéressant aussi de voir qu'est-ce qu'il y a derrière la réflexion que tu te fais. C'est trop chouette. Et pour finir, l'entrepreneur qui t'inspire le plus? Ou l'entrepreneur, ouais. Ou l'entrepreneur?
L'entrepreneur qui m'inspire le plus... c'est compliqué de répondre à ça, je...
Peut-être t'en as plusieurs, je sais pas.
Ouais, il y en a beaucoup. Bon, Chloé Bloom, Safia Gourari aussi m'a beaucoup inspirée. Et je dirais, mais là, tu vois, si je pense à quelqu'un, par exemple, avec qui, enfin, si je pouvais aller parler avec quelqu'un, tu vois, une table au resto, je pense que ce serait Léna Mafou, justement, on y revient. Je trouve qu'elle développe beaucoup de choses différentes. La plupart des gens la voient juste, entre guillemets, comme une influenceuse, mais pour moi, c'est vraiment devenue une businesswoman, et elle a créé plein de choses différentes, plein de projets différents. Et j'admire beaucoup, beaucoup pour ça. Et je trouve qu'elle fait preuve aussi d'une résilience, notamment par rapport à tout ce qu'elle se prend dans la gueule. Et pourtant, elle continue à avancer, et ça m'inspire beaucoup.
Trop chouette. Merci de t'être prêtée au jeu, Jessica. Merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. C'était trop, trop chouette comme discussion.
Ben, merci beaucoup à toi. Franchement, c'était un trop bon moment. Et j'ai découvert ton podcast, du coup, et j'ai écouté quelques épisodes. Et franchement, c'est trop chouette ce que tu fais. Donc voilà, c'était vraiment cool.
Merci, merci beaucoup. Et merci à celles et ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis à dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.